Alors nous allons clore dans notre étude de ce que nous enseigne les Écritures au sujet de la résurrection par ce que vous venez de considérer dans le livre de l'Apocalypse. Je me permettrai de vous donner juste un petit plan de ce livre de l'Apocalypse. Pour le comprendre, il faut se souvenir que le verset clé de ce livre se trouve au chapitre 1er, au verset 19e. Cela peut nous aider beaucoup. Où vous lisez « Écris donc les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Il semble bien qu'il y a donc trois parties bien distinctes dans l'Apocalypse. La première, c'est les choses que Jean a vues. Alors, ça, c'est le premier chapitre. Qu'est-ce qu'il a vu dans le premier chapitre? Il a vu la personne de son Sauveur glorifié, dont il a entendu la voix en ce premier jour de la semaine et qui lui commandait d'écrire. Il l'a donc reconnu, mais il l'a reconnu parce que c'était celui dont il avait vu le visage, non pas seulement quand Jésus était sur la terre, allant de lieu en lieu, faisant du bien, puisque Jean était son disciple, mais il l'avait vu dans un moment de gloire. Le Seigneur avait donné à ses trois disciples privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, comme un échantillon de sa gloire sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont vu le visage de Jésus resplendir comme le soleil quand il sort dans sa force. Et dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, vous voyez au verset 16 que son visage, à la fin du verset 16, était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est donc le Christ glorifié. Et à ce moment-là, nous avons vu dès le premier soir que Jean est tombé sur sa face et qu'il a laissé le Seigneur poser sa main sur lui et il a écouté ses paroles « Ne crains point ». Et alors ça, ce sont les choses que Jean a vues. Puis, il est parlé des choses qui sont. Ou les choses, ou ce qui est, d'après Second. Alors, ce qui est et ce qui existe maintenant, vous l'avez dans les chapitres 2 et 3. Ce sont les choses qui existent, qui sont. Et c'est l'histoire de l'Église. Vous avez là le récit des sept églises, et j'ai été souvent frappé, même à Jérusalem, dans la grande bibliothèque catholique de Jérusalem, de voir que même les théologiens catholiques voyaient dans l'histoire des sept églises un récit prophétique de toute l'histoire de l'Église, qui commence par Éphèse, qui est le premier amour, qui se continue par l'église de Smyrne, qui est l'église au temps de la persécution, puis par l'église de Pergame, qui est le temps où la persécution a cessé et où, sous le règne de Constantin, on a imposé le christianisme comme religion d'État, ce qui a été un grand malheur en quelque sorte, parce qu'il suffisait de naître dans ces états pour porter le nom de chrétien. Or, on ne naît pas chrétien, on le devient par une nouvelle naissance. Et puis, ensuite, vous avez l'église de Thyatire qui nous montre une église qui laisse un enseignement étranger à Jésus s'implanter de plus en plus, et il y a une déviation qui nous parle au fond de ce qui s'est passé dans l'église qu'on a appelée l'église romaine. Mais au sein de cette église romaine, il y a des âmes, évidemment, qui sont sauvées et qui n'ont pas connu, comme il l'a dit, les profondeurs de Satan. Et si vous êtes étonné qu'elles restent encore dans cette église, ce n'est pas à vous de les juger, mais le Seigneur dit, quant à vous, je ne vous impose pas d'autres charges, d'autres fardeaux. Et c'est très clair, ça. Maintenant, vous avez, après l'église de Thyatire, vous avez l'église de Sardes, qui semble bien être ce qui a été connu pendant la Réformation. De l'église catholique sont sortis des hommes, qui étaient donc des catholiques, et qui ne voulaient pas former une autre église, mais qui demandaient la réforme, qu'on revienne à ce qui était dès le commencement dans la parole du Christ. Alors, ce serait donc Sardes, le protestantisme, et qui avait le nom de vivre et qui maintenant est mort. Tu as le nom de vivre. On se dit protestant, puis on ne proteste contre rien du tout. De sorte que ce n'est pas ces titres-là qui comptent pour nous. C'est d'avoir vraiment la vie. Parce que, hélas, le protestantisme qui avait bien commencé, c'est-à-dire les réformateurs qui avaient apporté vraiment la parole, ils n'avaient pas apporté de nouvelles vérités. Ils avaient redécouvert en particulier la justification par la foi. Quand on pense à Luther qui était un moine et qui a tellement souffert de la question de ses péchés et qui voyait l'Église qui construisait des cathédrales comme aujourd'hui, mes amis. Il semble qu'on n'a rien compris, même dans le monde évangélique. On veut construire des églises, des églises, des églises. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande de l'argent à tout le monde pour construire des églises. C'est pas construire des bâtiments. Réunissez-vous en deux ou trois au nom du Seigneur. Et puis, vous n'aurez pas toutes ces charges matérielles. On est écrasé par des charges matérielles. On reçoit que des demandes d'argent presque tous les jours. Et puis ça va où, ces demandes d'argent? Eh bien, souvent dans la poubelle. Et puis c'est surtout souvent du beau papier qu'on nous envoie. On aurait pu faire cette économie. Alors, donc, nous avons donc là les choses qui sont, ça existe encore. Et puis, après l'église de Sardes, il y a eu un réveil dans le siècle dernier, l'église de Philadelphie, qui veut dire amour des frères. Ce sont des hommes qui, voyant que le protestantisme, justement, dégénérait, on ne croyait plus en l'inspiration des Écritures, était inspiré ce qui passait dans notre raisonnement, mais le reste, on le niait. Je me souviens, quelqu'un, un de mes petits-fils, m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait les études dans une faculté de théologie pour être avec le titre de pasteur. Eh bien, quand j'étais jeune, après ma conversion, eh bien, le doyen de la faculté de théologie protestante du canton de Neuchâtel disait aux élèves « Je veux être droit avec vous, si vous faites la théologie, il est bien probable que vous allez perdre la foi. Alors, que notre foi soit éprouvée dans nos études, c'est possible, et ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Mais qu'on nous dise d'avance, bah, vous allez perdre la foi, alors qu'est-ce qu'on fera? On aura un titre, hein, mais on sera fonctionnaire, on deviendra un homme qui baptise, un homme qui marie, puis un homme qui enterre. Et même maintenant, il n'y a même plus ça. Hein. On ne baptise plus, on ne marie plus, et puis on enterre, oui, mais sans rien, hein, n'importe. Alors, c'est quand même tragique. Alors, vous avez ça, toute cette histoire de l'Église. Donc, l'Église n'est pas, en ce moment, bien vivante. Alors, et qu'est-ce qui reste? Eh bien, un témoignage de plus en plus individuel. Alors, on arrive à Laodicée. Mais Laodicée, ben, chaque milieu se croit riche. Et il n'y a que nous, semble-t-il. Eh bien, c'est l'Église dans la fin des temps, Laodicée, voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une communion individuelle avec le Seigneur. Mais que Dieu nous garde d'avoir l'esprit de Laodicée qui dit au verset 14, le Seigneur lui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Ce n'est pas des gens qui perdent leur salut, mais qui n'ont jamais eu le salut, mais qui sont nés là-dedans. Alors, que Dieu nous garde et qu'il nous amène à comprendre que nous n'avons pas à dire « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » parce que tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, il peut y avoir un réveil individuel si nous entendons sa voix. Alors, ça, ce sont les choses qui sont. J'ai essayé de vous donner juste un aperçu de l'histoire des choses qui sont, de l'histoire de l'Église. Mais nous sommes à la fin de cette histoire de l'Église qui a commencé par la Pentecôte, comme vous le voyez dans les actes, et qui se termine par l'enlèvement de cette église. Il y a un moment où les chrétiens authentiques éprouveront de plus en plus qu'ils n'ont plus leur place sur la terre. Parce que ce que vous devez bien comprendre en lisant la parole, c'est que Dieu s'est manifesté par deux peuples. D'abord, le peuple d'Israël, hein, qui était le peuple terrestre et qui avait comme mission de faire connaître aux païens la vérité de Dieu, le Dieu unique. Est-ce qu'Israël a été fidèle? Non. Israël a été infidèle et quand Jésus est venu, il venait chez les siens, donc en Israël, et puis les siens ne l'ont pas reçu. Alors, le royaume qui aurait dû s'établir, puisque Jean-Baptiste avait dit le royaume de Dieu s'est approché, le roi était là, dans la personne de Jésus, le roi ayant été rejeté, eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Le Seigneur a sauvé des âmes aussi bien en Israël, les premiers disciples, que parmi les païens, et la pierre qui était rejetée, Jésus était la pierre angulaire, qui aurait dû être la pierre du fait, du royaume, eh bien, elle est devenue la pierre, la maîtresse pierre du coin, et c'est l'Église qui a été fondée. Les relations avec Israël ont été rompues, et l'Église a été fondée. Mais l'Église est donc un peuple céleste et non pas un peuple terrestre. Et c'est cela que nous devons bien comprendre. Et quand l'Église a perdu de vue sa vocation céleste et qu'elle est devenue une puissance mondiale et terrestre, c'était sa fin, le commencement de la fin. L'Église est un peuple céleste. Ses bénédictions sont célestes et non pas nécessairement terrestres. C'était pour Israël cela. Mais alors, souvenons-nous que Dieu est fidèle à toutes ses promesses et s'il a mis de côté Israël, comme on le voit dans Romains, il reprendra ses relations avec son peuple. Quand l'Église est enlevée, la vraie Église, la fausse Église, tout ce qui restera du nom de chrétien, eh bien, apostasiera complètement et on recevra dans ce monde un homme qui est l'Antichrist, qui est le faux prophète, qui va s'allier avec la puissance de ce qu'on voit se former maintenant et qu'on peut appeler au fond, si vous voulez, l'Europe ou le renouvellement de l'Empire romain qui existait avant, une association de peuples qui va dominer et avec toutes les inventions du temps présent, on croira être arrivé vraiment à pouvoir régner dans ce monde, mais régner sans Dieu. Régner sans Dieu. On va vers le moment du règne de l'homme. L'homme qui devient Dieu. L'homme qui s'élève pour devenir Dieu. Donc on ne croit plus à la divinité essentielle du Christ, on ne croit pas à sa résurrection, on ne croit pas à son retour. Alors, voilà que tout se prépare. Et qu'est-ce qui va arriver? Quand l'Église aura été enlevée, puisqu'elle ne peut plus, au fond, témoigner vraiment avec force et vie pour le Seigneur, Dieu va se souvenir de ses promesses pour Israël. Et ce que vous voyez, c'est quand même prophétique. Il était annoncé que le peuple d'Israël, finalement, retournerait dans sa terre. Mais ils y retournent dans l'incrédulité. Ce ne sont pas des gens qui sont vraiment croyants en Christ. Oui, ils croient à Dieu, mais ils n'ont pas accepté le Christ. Et ce qui est terrible, c'est que, ayant refusé le Christ, ils vont accepter un autre qui viendra en son propre nom et qui s'imposera et qui fera une alliance avec l'Occident unifié. Et vous voyez, le troupe d'Israël maintenant, ils veulent la paix. Hein. La paix à tout prix. La paix et la sécurité. Et ils s'allieront avec la puissance qui pourra les protéger, par exemple, contre leurs ennemis. Mais ce sera quelque chose de terrible. Cette alliance est contraire à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, et soudainement, celui qu'ils auront accepté leur sauveur montrera son vrai visage et ce sera une terrible persécution qui va venir sur la terre habitée tout entière. La grande tribulation qui est annoncé dans l'Apocalypse aura lieu. Alors, j'abrège et je reviens maintenant à la troisième division, donc jusqu'au chapitre 3 c'est l'histoire de l'Église et sa fin. Puis, dès le chapitre 4 et jusqu'au chapitre 19, tous les événements que vous avez là sont futurs. Au chapitre 4, il semble bien qu'on voit l'Église enlevée. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Et alors, l'Église étant enlevée, elle voit les choses du ciel, ce qui se passe sur la terre. Et vous avez la succession, après au chapitre 5, 6, des cavaliers de l'Apocalypse, tous les événements qui vont se succéder et les jugements. Et alors, c'est en prenant l'ensemble des Écritures que nous pouvons nous y retrouver. Souvenez-vous que l'Église est un peuple céleste, que sa vocation est, c'est d'aller auprès du Seigneur, comme lui l'a dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et alors, comme on l'a vu hier, la première résurrection a lieu dans le chapitre 4 des Thessaloniciens, à l'enlèvement des croyants, à l'enlèvement de l'Église. Et alors, pour ceux qui seront restés et qui n'ont pas eu la connaissance de la vérité pour être sauvés, ils auront la possibilité de se convertir par l'Évangile éternel. C'est ce que vous avez au chapitre 14. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel, verset 6 du chapitre 14, et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce n'est pas l'Église qui va faire ce travail-là. L'Église sera enlevé. Mais c'est un peuple nouveau, et ce peuple, ce sont les hommes d'Israël qui se tourneront vers le Seigneur. Il y aura, après l'enlèvement de l'Église, de telles persécutions pour Israël que le Seigneur se manifestera à eux, et c'est ces hommes convertis, qui ne sont pas compromis dans les iniquités du christianisme, des hommes nouveaux qui annonceront l'Évangile à toute la création en bien peu de temps. Et qu'est-ce qu'il disait? Verset 7. Il disait d'une forte voix, « Craignez Dieu !» Donc, ramenez la crainte de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Il n'y a plus la crainte de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. Donnez-lui gloire. Est-ce qu'on donne gloire à Dieu aujourd'hui? C'est la gloire des hommes. Hein? C'est toujours mettre l'homme en avant. Et puis, car l'heure de son jugement est venue. Donc, qu'est-ce qui vient? C'est le jugement. Et ceux qui entendront cela, eh bien, se convertiront. Et adorer celui qui a fait le ciel. Qui est-ce qu'on adore aujourd'hui? Je l'ai répété souvent, hein. Je déteste entendre ces gens dire j'adore, j'adore, j'adore. Et vous entendez les chrétiens qui disent ça. Ils adorent le fromage, ils adorent le chocolat, ils adorent le cinéma, ils adorent n'importe quoi. Hein. Ce sont des païens. Et nous n'avons pas à avoir un langage de païens. Adorer, vous l'avez entendu quand vous étiez peut-être au catéchisme. Un seul Dieu, tu adoreras, hein? Mais on ne s'en souvient plus. adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux, etc. Alors, il y aura donc tout un groupe de gens qui se convertiront, mais je ne peux pas entrer dans le détail, vous voyez que ces hommes, hélas, qui imposeront leur idée, eh bien, ceux qui ne voudront pas recevoir cette marque de la bête ne pourront plus ni acheter ni vendre. Alors ce sera une terrible persécution pour eux. Et beaucoup, parce qu'ils ne voudront pas cette marque de la bête, seront égorgés, mis à mort. Donc ils mourront pour leur foi. Et c'est de ces personnes, vous avez l'histoire ici dans l'Apocalypse. Ils demandent au Seigneur jusqu'à quand. Et alors, c'est là qu'il faut introduire un jugement dont on n'a pas parlé. C'est celui du chapitre 25 de Matthieu, qui n'est pas le jugement dernier, mais qui est vraiment le jugement des vivants. Quand le Seigneur reviendra en gloire, après qu'il aura enlevé son Église, il revient avec les siens, avec son Église, pour juger, comme vous le voyez au chapitre 19 de l'Apocalypse. La première chose qu'il fera, c'est juger les nations. Et c'est cela que vous avez dans le chapitre 25 de l'Apocalypse, qui est un jugement pour les vivants. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, chapitre 25 de Matthieu, pardon. Alors, dans le chapitre 25 de Matthieu, ce n'est pas le jugement dernier. C'est le jugement des individus membres des nations lors du retour du Christ sur la terre. Il revient d'abord sur les nuées pour enlever son Église, puis ensuite, après, à la fin de la tribulation, quand il voudra vraiment répondre aux cris de ceux qui sont persécutés, le Seigneur revient pour juger et il juge les nations d'après l'attitude qu'ils auront eue vis-à-vis des enfants d'Israël, hein, qui n'ont pas voulu se soumettre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Ce n'est pas des chrétiens qu'il est parlé ici. Ce sont donc de ces gens qui auront trouvé le Seigneur après l'enlèvement de l'Église. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, puisque Jésus vient pour l'établir, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Placez bien cela où ça doit être. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits qui sont mes frères. Qui sont les frères du Seigneur? Les Juifs. Si vous avez été touchés par leur détresse et leur misère, et que vous les avez secourus, alors justement qu'ils n'avaient rien pour vivre, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, et alors ce sont ceux qui n'ont pas voulu penser à leur prochain, et il leur dira, verset 45, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, donc aux Juifs, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Là, il n'est pas question de résurrection, donc ceux qui seront sauvés là, ce sont ceux qui auront eu compassion de ce peuple juif, ils l'ont fait au Seigneur. Ça, c'est donc le jugement des nations. Selon l'attitude que les nations auront eue à l'égard du peuple d'Israël, eh bien, il y aura ce jugement que vous avez là. Et maintenant, nous terminons avec les versets qui vous ont occupé dans l'Apocalypse. Au chapitre 19, donc, c'est le retour glorieux du Seigneur, parce que le retour, le premier acte de son retour, quand il vient pour chercher les siens, c'est en quelque sorte un acte secret. Ce n'est pas le monde qui le voit. Tandis que quand il reviendra en gloire, tout œil le verra. Tout œil le verra. Alors il y a donc vraiment deux actes. Il vient enlever les siens, puis il revient avec les siens, qui ont déjà séjourné avec lui dans la gloire. Et à ce moment-là, il apporte la délivrance à Israël. Israël criera au Seigneur, viens, viens. Et ils se convertiront, ils regarderont, dit Zacharie, à celui qu'ils auront percé, n'est-ce pas? Et ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils unique. Qui c'est ce fils unique? C'est Jésus. Et comme on se lamente sur un premier-né, c'est le premier-né de qui? De Marie, n'est-ce pas? Vous avez ça déjà dans Zacharie, la conversion d'Israël. Le Seigneur interviendra pour Israël, qui aura compris que ce n'est pas en regardant à droite ou à gauche pour recevoir du secours qu'ils seront délivrés. Et ça, ça m'a toujours frappé. Un jour, j'étais à Jérusalem et j'ai entendu un discours de Menahem Begin, l'ancien premier ministre, qui disait « Souvenez-vous que la délivrance pour Sion ne peut venir que du Messie, et non pas de la Russie ou de l'Amérique. » Du Messie. Mais savaient-ils que le Messie qu'ils attendent a les mains percées? Il n'y a pas de Messie, il n'y en a qu'un. Eh bien, les persécutions, les épreuves d'Israël vont conduire Israël à une réelle conversion, à une réelle repentance. Et quand il y aura cette repentance, le Seigneur apportera aussi la délivrance. Et alors, quand le Seigneur revient en gloire, vous avez cela au verset 11, « Je vis le ciel ouvert, et il apparut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et le juge, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, Et il était vêtu d'un vêtement teint dans le sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et nous sommes dans ces armées qui reviennent avec lui. De sa bouche sortait une épée pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il fougera la cuve de vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et puis alors, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, dont on a dit quelques mots, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et adorer son image. Et vous voyez, il y a une course vers des prodiges, vers des miracles aujourd'hui. Elles furent tous les deux jetées dans les tentes ardentes de feu et de soufre. Et puis, alors, après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Elle saisit le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Alors, Satan, qui avait été libre, qui avait été chassé du ciel, au moment de l'enlèvement de l'Église, Satan est chassé du ciel. C'est très frappant, ça, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Un grand combat, et alors Satan vient sur la terre. Il y aura un temps où Satan lui-même, en personne, sera sur la terre. On est déjà sous l'influence du prince de ce monde. Mais quand il sera là, ce sera quelque chose de terrible pour ceux qui seront là. Alors, heureux ceux qui ont cru et qui seront enlevés par le Seigneur. Et alors, pendant que le Seigneur régnera, pendant 1000 ans, alors au début de ce règne, vous avez au chapitre 20, je vis des trônes, verset 4, et ceux qui s'assirent, il leur fut donné le pouvoir de juger, parce que nous jugerons avec le Seigneur. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est qui ces gens-là? Ce sont ceux qui, soit des nations, soit des juifs, se sont convertis au Seigneur et qui n'ont pas voulu porter la marque de la bête. Alors, ils ont été décapités ou mis à mort à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur son front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. Donc ça, c'est encore la première résurrection, c'est une des étapes de la première résurrection. La première résurrection comprend donc le Seigneur, ceux qui sont du Christ à sa venue, et puis ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, auront cru sur la terre, ils n'avaient pas eu la connaissance du Seigneur avant, mais ils se sont convertis au travers de leurs épreuves. Alors, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ils ressuscitent pour pouvoir régner avec le Christ. Et puis, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alors, vous avez là clairement qu'il y a deux moments pour la résurrection, n'est-ce pas? Il y a la résurrection pour la vie, comme on l'a vu dans les autres passages. La résurrection donc des justes, et qui comprend aussi ceux qui auront souffert après l'enlèvement de l'Église et qui se seront convertis par l'Évangile éternel. Et vous avez ce merveilleux verset, c'est la première résurrection, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et alors, pendant ce règne, eh bien, ce sera la prospérité sur la terre, on a des scènes extraordinaires dans les prophètes qui nous parlent de ce règne. Et verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis. Donc Dieu va donner la possibilité au monde de connaître 1000 ans de paix. Et qu'est-ce qui se passera après 1000 ans de paix sous le règne du Seigneur, où il n'y aura plus d'injustice? Parce que l'iniquité ne pourra pas se développer pendant le règne. Pourquoi? Parce qu'il y a la peine de mort. Hein. Dans le règne, il y a la peine de mort. Il y aura la peine de mort dans le règne. Parce que maintenant, justement, il n'y a pas ces choses-là. Alors, le mal va en augmentant. Pendant le règne, le mal ne pourra pas augmenter. Immédiatement, quand le mal se manifestera, il sera jugé. C'est un temps tout à fait particulier. Et alors, mais il faudra, pendant le règne, que les gens se convertissent aussi. Hein. Pendant le règne, il y aura des enfants qui vont naître et qui devront se convertir. Mais ce sera beaucoup plus facile de se convertir quand tout sera sous l'administration du Seigneur. Et justement, maintenant, votre fidélité au Seigneur va vous donner une part de responsabilité dans l'administration du royaume. Comprenez-vous? C'est pourquoi notre vie est tellement capitale. Si vous êtes fidèle maintenant dans les petites choses, le Seigneur, pendant le règne, vous établira sur beaucoup. Il y a des récompenses. Mais si vous n'avez pas montré de fidélité, comment voulez-vous que le Seigneur vous confie l'administration de son règne? C'est votre vie maintenant et qui est capital pour vous. Je veux être fidèle au Seigneur maintenant parce que un jour le Seigneur voudra bien m'employer dans son royaume. Mais la demeure des croyants, c'est toujours la demeure des saints célestes, n'est-ce pas? Mais il y aura des relations entre le ciel et la terre. Et alors, après avoir vécu 1000 ans dans la paix, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, quand Satan aura été délié, des gens qui ont connu 1000 ans de paix, mais qui avaient peut-être fait le point dans leur poche, ils n'ont pas aimé le Seigneur quand même, ils ont profité de tout, mais sans aimer le Seigneur, eh bien, là, il y a le jugement dernier. Le jugement fond sur eux. Ils montèrent sur la face de la terre, ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, et le feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, c'est les peines éternelles, ça. Puis je vis un grand trône blanc. Alors vous voyez, là on arrive au jugement dernier, et celui qui était assis dessus, la terre et la le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc c'est la destruction de la terre, c'est la fin du monde. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit ses morts et qui étaient en elle. Donc tous doivent ressusciter, même les noyés. Hein. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mer et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu, donc il n'y a plus de mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et alors commence l'état éternel, c'est un monde nouveau où toutes les choses anciennes sont passées et il n'y a plus que Dieu avec les hommes.